dans vos écrits, vos articles, vous montrez que vous vous intéressez à la narration et au langage chez l'enfant, et dès tout petit.
La narration qui ne passe pas d'ailleurs chez les bébés que par le langage, qui passe par le comportement, qui passe par les interactions, qui passe par le corps, puis un jour par le langage, bien sûr.
Alors, est-ce que Lacan vous a incité à explorer une façon nouvelle de psychanalyser et à relire Freud autrement?
Alors, tout à l'heure, vous m'avez demandé si j'étais freudien. Je vous ai répondu assez clairement oui. Donc, je ne vais pas vous dire maintenant que je suis lacanien. Sauf si les lacaniens se disent freudiens. Mais ce n'est pas encore tout à fait le cas. Bon, moi, j'ai fait ma formation psychanalytique au sein de l'Association psychanalytique de France, l'APF, qui est une association qui s'est créée en rupture avec Lacan. Pas parce que il contestait les apports théoriques de Lacan, mais parce que Lacan avait été rejeté par l'Association psychanalytique internationale et que les fondateurs de l'APF, tout en voulant garder des références à l'œuvre de Lacan, voulaient aussi rester au sein de l'Association psychanalytique internationale. Donc, dans cette société, il y a une espèce d'ambivalence vis-à-vis de Lacan, qui est à la fois reconnu comme l'inspirateur d'un certain nombre d'idées, mais quelqu'un qu'on a voulu quitter aussi, pour rester au sein de l'IPA, l'Association psychanalytique internationale freudienne. Donc probablement, les propos de toutes les personnes qui font partie de... Parce qu'il y a un poids de l'institution, qu'on le veuille ou non. Hein. Et donc, quand on a choisi d'être dans une institution... On est imprégné par quelque chose, hein, et y compris par les origines de l'institution. Donc il me semble que les propos des gens qui font partie de l'APF sont marqués par cette espèce d'ambivalence vis-à-vis de Lacan, et je crois que je me trouve dans cette situation. Hein. En ce sens que moi, j'ai beaucoup lu les écrits de Lacan, je trouve ça intellectuellement extrêmement intéressant. Je ne me retrouve pas dans la pratique lacanienne, notamment de la scansion des séances courtes d'une certaine négligence apportée à la question du contre-transfert, mais je trouve qu'il y a chez Lacan des choses qui sont tout de même extrêmement importantes. Et alors aujourd'hui, on voit apparaître des auteurs, des cliniciens, des praticiens lacaniens assez différents parce qu'ils s'occupent du bébé. Et que le bébé nous oblige à prendre en compte le corps. Et c'est Merleau-Ponty qui disait, il y a déjà très très longtemps, et en pensant à la psychanalyse lacanienne en particulier, Merleau-Ponty disait « Un jour, la psychanalyse paiera son tribut d'avoir trop oublié le corps. » Et là, il me semble que chez les lacaniens qui s'intéressent au bébé, Il y a certains noms vraiment importants, à Paris en particulier Marie-Christine Lasnik. Ça change tout. Ça change tout parce que le bébé nous amène le corps au premier plan de la scène. Le corps, les pulsions. On ne peut pas, avec le bébé, patauger dans des théories désincarnées. Hein. On est obligé de prendre en compte le corps, le développement, la croissance, la maturation corporelle, ça change tout. Hein. Voilà, alors par ailleurs, chez Lacan, vous l'avez peut-être senti percer tout à l'heure dans ce que je disais, il y a quelque chose qui nous frappe beaucoup, c'est la distinction entre le sujet de l'énonciation et le sujet de l'énoncé. Hein. Et je pense que pour l'étude du très jeune enfant et pour l'étude de l'effet du langage sur l'enfant, il y a là une piste vraiment extrêmement intéressante pour les psychanalystes. C'est-à-dire, comme je vous disais, l'enfant rentre dans le langage, non moins par les mots que par la musique du langage, c'est-à-dire la prosodie, l'intensité, le rythme, le débit, les césures, les silences, etc. Prendre en compte vraiment cette dimension prosodique, musicale du langage, l'énonciation à côté de l'énoncé, me paraît très, très importante et en ligne assez directe avec les propositions de Lacan.